France Culture.
Le journal, Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Coup de tonnerre aux États-Unis, la Cour suprême vient de juger illégale l'une des armes préférées de Donald Trump, les droits de douane. Nous retrouverons Franck Matevon en direct de Washington en début de journal. Pendant ce temps, l'armada américaine n'en finit plus de grossir. Aux portes de l'Iran, la République islamique prévoit de fournir un accord sur le nucléaire dans les tout prochains jours, mais semble sur le terrain se préparer à la guerre. À la veille d'un rassemblement à Lyon de groupuscules d'extrême droite en hommage à Quentin Derenck, nous verrons avec Noah Marchais qui sont ces groupes radicaux qui ont prévu de défiler en mémoire de ce militant identitaire. Le dossier de ce journal, coup de projecteur sur les municipales à Lens, dans les Hauts-de-France, l'une des villes convoitées par le Rassemblement national. Rien ne va plus devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Son rapporteur, le député UDR Charles Alloncle, fait une nouvelle fois polémique après avoir révélé le montant de contrats passés entre France TV et une société de production. Explication de Marion Ferrer. Enfin, avec Valentin Gris, nous reviendrons sur une filiale d'EDF, Exaion, qui doit passer sous pavillon américain. C'est un énorme pavé sur le terrain de golf de Donald Trump. La Cour suprême des États-Unis a jugé cet après-midi hors la loi les fameux droits de douane imposés par le président milliardaire. La Cour a considéré qu'il avait dépassé les pouvoirs prévus par la Constitution en imposant ses droits sur la quasi-totalité des produits qui entrent aux États-Unis. Franck Matevon, bonjour.
Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture à Washington, selon la décision rendue cet après-midi à une majorité de 6 juges contre 3, le président américain ne pouvait pas justifier ses droits de douane par la nécessité d'urgence économique.
Oui, le gouvernement avait fait valoir une loi d'urgence économique de 1977 pour valider des droits de douane visant des dizaines de pays, au moins 10%, souvent bien plus. Donald Trump, vous le disiez, voit dans ses taxes un pilier de sa politique économique. Il y avait deux arguments, les morts liées au fentanyl pour trois pays, Chine, Canada et Mexique, et l'importance des déficits commerciaux pour à peu près tous les autres déficits qui mettent en péril l'industrie américaine. Eh bien, selon la Cour suprême, ces arguments ne tiennent pas. 6 juges sur 9 estiment que l'administration ne pouvait pas recourir à cette loi, que les droits de douane doivent être fixés par le Congrès, par les parlementaires américains. 3 juges conservateurs se sont donc joints aux 3 magistrats considérés comme libéraux, classés plutôt à gauche. Donald Trump n'a pas encore réagi, mais il avait prévenu qu'une décision contestant ces droits de douane détruirait littéralement les États-Unis d'Amérique.
Alors la question qui se pose ce soir, Franck, c'est celle de l'impact d'une telle décision.
Eh bien, l'administration Trump s'expose à des milliards de dollars de demandes de remboursement de taxes. Beaucoup d'entreprises ont anticipé cette décision et consulté des avocats pour préparer la riposte, ce qui pourrait à la fois coûter cher à l'État et entraîner un casse-tête administratif sans précédent. Donald Trump n'est sans doute pas totalement surpris par cette décision qui semblait se dessiner à la lumière des débats qui ont eu lieu cet automne. La Maison-Blanche pourrait s'appuyer sur d'autres armes législatives, mais celle-ci pourrait être contester aussi ou ne pas englober la totalité des surtaxes. Elle pourrait aussi se tourner vers le Congrès, ce qui serait hasardeux car beaucoup de républicains sont sceptiques face aux droits de douane. De nombreuses taxes aux importations restent toutefois en vigueur, notamment celles visant des secteurs précis comme l'acier ou l'aluminium.
Franck Matevon en direct de Washington. Parmi les premières réactions, celle de l'Union européenne qui prend note de cette décision de la Cour suprême et l'analysera, dit-elle avec attention. Pour le Canada, la décision de la Cour confirme que les droits de douane sont injustifiés. L'industrie allemande, de son côté, a salué un signal fort. Et cette décision de la Cour suprême coïncide avec la publication de chiffres en demi-teinte pour l'économie américaine. Elle a montré des signes de ralentissement au cours du dernier trimestre 2025 avec une hausse de 1,4% en rythme annuel, décevante comparée aux attentes des marchés et que le président américain Donald Trump a d'ores et déjà tenté de justifier en rejetant la faute sur les démocrates. Sur le plan militaire, en revanche, l'armée américaine a le vent en poupe et l'armada n'en finit plus de se muscler autour de l'Iran. Donald Trump, qui a évoqué une possible frappe limitée, a fixé une sorte d'ultimatum au régime des Mollahs, lequel a indiqué indiqué qu'un accord sur le nucléaire serait soumis aux États-Unis d'ici 2 à 3 jours. Mais sur le terrain, Marie-Pierre Vérot, la République islamique semble se préparer à la guerre.
Depuis la guerre lancée par Israël en juin dernier, l'Iran s'est en effet attelé à réparer les infrastructures détruites, particulièrement les sites de lancement de ses missiles balistiques, l'usine de production de missiles à longue portée à Shahroud, particulièrement stratégique, a ainsi été l'une des premières remises sur pied. En s'appuyant sur les images satellites, CNN documente les travaux de terrassement sur la base de Khorramabad. 3 des 10 structures détruites ont été réhabilitées, 3 autres sont en train d'être réparées. Beaucoup d'activités aussi autour des bases aériennes, dont celle de Tabriz, qui abrite les rampes de lancement de missiles à moyenne portée. Les tunnels sont reconstruits et les sites nucléaires fortifiés, protégés par des sarcophages de béton recouverts de terre, notamment le complexe lié à l'enrichissement d'uranium situé près d'Ispahan. La chaîne de commandement a aussi été renforcée. Le Conseil de défense et le Conseil national de sécurité pour parer à toute vacance du pouvoir si le guide Ali Khamenei devait être pris pour cible. L'Iran cherche ainsi à envoyer aux États-Unis un message dénué d'ambiguïté. S'ils déclenchent une guerre, elle sera longue et coûteuse.
La préfecture du Rhône y voit, dit-elle, une recherche d'équilibre entre liberté d'expression et prévention des troubles à l'ordre public. La marche en hommage à Quentin Derenck a été autorisée demain à Lyon, une semaine après la mort du militant d'extrême droite et après la mise en examen hier de 7 militants antifascistes liés à la RICS. Le maire de la ville, Grégory Doucet, avait défendu l'interdiction de ce cortège commémoratif, évoquant des risques avérés de troubles à l'ordre public. Pour l'instant, la liberté est plus importante que l'inquiétude, a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Les autorités ont donc validé ce parcours d'un peu plus d'un kilomètre dans le 7e arrondissement de Lyon, en prévoyant un dispositif de sécurité renforcé le long du trajet. La préfecture prévoit 2 à 3000 participants. Noah Marché, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Identitaires, néofascistes, royalistes, catholiques, traditionnalistes ou mouvements anti-avortement, la plupart des nuances de l'extrême droite devraient s'y retrouver.
Oui, un peu à l'image de l'engagement de Quentin Derenck, ce militant d'ultra-droite assurait la sécurité du groupe Némésis le jour de la RICS. On retrouve donc l'appel à manifester sur le compte Instagram de ce groupe féministe identitaire. Cortège organisé par une militante de la Marche pour la Vie, Aliette Espieux, une activiste anti-avortement. Quentin Derenck était donc bien intégré dans le milieu de l'ultra-droite, ancien membre de l'Action française. Le groupe royaliste, nationaliste, historiquement antisémite, relaie d'ailleurs tous les hommages en France pour le militant, et notamment la marche lyonnaise. L'affiche pour la marche blanche à Lyon se retrouve aussi sur le compte Instagram Allobroge Bourgoin, car Quentin Derenck est le cofondateur de ce groupuscule nationaliste révolutionnaire. Ses membres ont d'ailleurs participé au cortège du comité du 9 mai à Paris l'an dernier, marche à la mémoire d'un autre militant nationaliste qui s'est soldé par des saluts nazis. Sont attendus à Lyon demain des militants italiens, allemands et belges. L'ultra-droite française pourra compter sur des soutiens comme les Ultra Notre Aide. Ce groupe néo-nazi européen se dit dédié à la culture du football. Il est suivi par 17 000 personnes sur Telegram. Les appels à manifester viennent aussi du groupe identitaire européen Memoria Natio. Les posts Instagram en anglais rappellent les règles de sécurité pour la marche de demain. Tenue acceptée, lunettes de soleil et masque chirurgical. À éviter, t-shirt avec une croix celtique, symbole raciste et tatouage politique. Bref, tout ce qui peut être répréhensible au regard de la loi française.
Noah Marché a noté que le Rassemblement national, qui entend soigner son image de respectabilité, a annoncé qu'il ne participerait pas à ce défilé. Un RN qui par ailleurs poursuit son ménage pour tenter de gommer les profils problématiques sur ses listes aux prochaines municipales à Amboise, en Indre-et-Loire. 2 colistiers ont été écartés de la campagne, l'un pour des propos transphobes, l'autre pour un tatouage à la mode dans les milieux néo-nazis. À Lyon, en tout cas, le scrutin municipal est sérieusement ébranlé par la mort de Quentin Derenque. Les candidats écologistes sortants sont sommés de préciser leurs intentions vis-à-vis de la France insoumise dans la perspective d'un second tour, que ce soit pour la mairie de Lyon ou à la métropole. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Du service politique de France Culture, plus généralement, cette affaire complique les potentielles alliances à gauche pour ces municipales.
Oui, l'alliance de second tour avec les insoumis s'annonce difficile à réaliser pour le maire sortant écologiste Grégory Doucet et pour le président de la métropole Bruno Bernard. D'un côté, ils auront besoin de réaliser l'union à gauche pour espérer résister à celui qui fait figure de favori à Lyon, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Et d'un autre côté, une alliance avec les insoumis pourrait faire fuir les électeurs de la gauche modérée et s'avérer préjudiciable. Alors pour le moment, ils temporisent. Laissons la justice faire son travail, a dit Grégory Doucet en début de semaine. Viendra le temps de tirer les conclusions politiques. Mais la question ne se posera pas qu'à Lyon et pas que pour les écologistes. En Avignon, par exemple, les sortants socialistes pourraient bien eux aussi avoir besoin des insoumis face à la concurrence du Rassemblement National, dont la candidate est pour le moment donnée en tête des intentions de vote. À Toulouse, même chose. Deux listes de gauche sont en concurrence face au maire sortant de centre-droit, Jean-Luc Moudenc, donné en tête au premier tour dans plusieurs sondages. La liste socialiste est à 30%, celle des insoumis à plus de 20%, ce qui fait une majorité, mais seulement en cas d'alliance au second tour, ce qui, dans le même temps, pourrait là aussi faire fuir les électeurs de centre-gauche rétifs à un rapprochement avec LFI. Et donc, dans bien des villes, la situation s'annonce complexe. Et on voit bien l'embarras des socialistes avec les déclarations ce matin du responsable des élections pour le PS, Pierre Jouvet. Il n'a pas fermé la porte à un rapprochement avec LFI, mais ça ne pourra se faire que dans de rares cas, a-t-il indiqué à l'AFP, et uniquement si les candidats insoumis, a-t-il encore précisé, clarifient leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique.
Stéphane Robert, alors dans ce contexte politique troublé, les municipales des 15 et 22 mars auront une portée nationale plus importante que d'habitude. Cette année, le Rassemblement National compte s'implanter dans de nombreuses communes, notamment dans le Sud-Est et les Hauts-de-France, exemple à Lens, où deux listes principales s'affrontent, celle du maire sortant, le socialiste Sylvain Robert, qui concourt avec le soutien des autres forces de gauche, mais sans LFI. Il est opposé au nouveau député de la circonscription, le RN Bruno Clavet, qui espère, lui, ravir la mairie. Reportage Nicolas Ballu.
Quartier 12-14 à Lens.
Bonjour madame.
Bonjour, je suis monsieur Clavet.
Celui des cités 12-14, l'un des plus pauvres de la ville, mais classé à l'UNESCO pour ses maisons de mineurs.
Quartier, et vous donnez le tract sur la sécurité.
Oui.
Voilà, voir si aujourd'hui vous avez peut-être des problématiques ou des
sujets. L'humidité.
Bon, les fameux logements insalubres, je sais.
Bruno Clavet est en terrain favorable, il y a habité. Il revient en député Rassemblement National, élu au premier tour à la faveur de la dissolution de 2024. L'ancien mannequin né à Aubagne, près de Marseille, était candidat en 2020. Une sorte de galop d'essai pour celui qui était chargé de communication à la mairie de Hénin-Beaumont.
J'ai toujours dit, je suis en campagne pour 2026 dès 2020. Évidemment, mon élection en tant que député m'a permis aujourd'hui d'avoir davantage ce lien de proximité et ce lien finalement de confiance aujourd'hui avec les électeurs qui m'ont élu à près de 50% à Lens, notamment dès le premier tour.
48,8% exactement dans la ville même. Lens, c'est certes un club de football flamboyant, la fierté d'un passé minier, c'est le musée du Louvre-Lens, mais dans cette ville moyenne d'un peu plus de 30 000 habitants, c'est aussi un taux de chômage et un taux de pauvreté largement plus élevé que la moyenne, un centre-ville en déclin et une abstention massive aux élections. Lens, terre de gauche où le vote RN monte progressivement alors que la droite classique n'existe quasiment pas et n'a pas présenté de candidat, le politologue Pierre Wadelot.
À Lens, le Rassemblement National se nourrit plus volontiers de jeunes électeurs et électrices, de primo-votants ou alors sur la tranche 18-30 ans, qui n'étaient pas forcément d'anciens électeurs de droite, mais qui, voilà, par le fait d'avoir grandi dans un monde dans lequel le Rassemblement National a été toujours un parti normalisé, banalisé, en fait, se tourne plus volontiers vers l'extrême droite.
Le Rassemblement National a décidé de décliner le thème de la sécurité dans toutes les communes, et Bruno Clavet n'y fait pas exception. Armer la police municipale et renforcer la vidéoprotection, le discours porte, mais pas partout.
Je suis une pure socialiste et je le resterai, je pense, à vie. J'ai été éducatrice toute ma vie, donc monter les uns contre les autres, c'est pas trop mon truc. Alors, je sais que vous vous battez beaucoup pour Lens. Je ne sais pas si vous êtes un pur lensois. Moi, je suis une pure lensoise. Ma famille, voilà, ça fait plus de 90 ans qu'on habite à Lens.
Je suis comme,
pas
comme,
moi.
Comme beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur pour construire la ville, pour l'aider à se redresser, comme à l'époque les immigrés marocains, portugais, polonais, etc., espagnols.
Mon père était mineur.
Je pense que c'est aussi la force de Lens, d'avoir des personnes de l'extérieur qui viennent aussi contribuer à construire son avenir.
Cette mémoire de gauche du bassin minier explique pourquoi Lens reste jusqu'à présent socialiste, comme elle le fut depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, malgré les scores croissants du RN et de Marine Le Pen. Sylvain Robert, maire de Lens depuis 2013, s'inscrit dans cette tradition.
Oui, mais on ne vivra jamais dans le passé. Aujourd'hui, c'est comment on fait face aux nouveaux défis.
Il réfute le procès en responsabilité qui lui est fait sur l'insécurité.
C'est une compétence de l'État. Au niveau local, on a mis en place une police municipale depuis 2020 sur ce qu'on a appelé la tranquillité du quotidien. On ne se dédouane pas d'une partie de l'action qu'on peut réaliser, sauf qu'il ne faut pas non plus vendre ça comme une réponse ultime de la ville qui pourra avoir la main sur toute la chaîne de la sécurité et toute la chaîne policière au niveau d'une ville, et notamment de la ville de Lens.
Une troisième liste, celle de Lutte ouvrière menée par Michel Darras, qui demande surtout un changement de politique économique nationale, est en lice. Elle n'avait pas dépassé les 2% en 2020. L'élection devrait donc se jouer dès le premier tour.
Reportage à Lens, signé Nicolas Ballu. Vous écoutez France Culture, il est 18h16. Nouvelle passe d'armes cette semaine à l'Assemblée nationale lors de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Les propos du rapporteur Charles Alloncq ont à nouveau fait polémique après les invectives, les noms de journalistes jetés en pâture, les anathèmes et les questions inquisitrices. Le député UDR a cette fois dévoilé des documents confidentiels. Ça s'est passé avant-hier lors de l'audition des dirigeants de Together Media, une société de production en charge du festival de Cannes pour France Télévisions. Le député a en effet révélé le montant des contrats liant le festival à France TV. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Et ceci, c'est une faute selon le président de la commission, l'élu Horizon, Jérémy Patrier-Lettus.
La rémunération de la maîtresse de cérémonie Virginie Efira, le coût des décors des différentes productions de devant la commission, le rapporteur Charles Alloncq a tout énuméré.
Ça a coûté 1 300 000 euros en moyenne, en comptant les 150 000 euros de décor et d'habillage. Il y a aussi ensuite, deuxième tranche, la production de la cérémonie d'ouverture et la conférence de presse, qui a coûté la somme d'1 300 000 euros. Est-ce que ces montants-là, plus de 2 millions d'euros, est-ce qu'ils vous semblent vraiment justifié.
Des détails obtenus grâce aux 26 000 documents fournis par France TV, et certains contiennent des secrets d'affaires, comme précisé avec agacement par le président de la commission, le député Horizon Jérémy Patrier-Lettus.
Je pense que vous auriez pu très bien dire, monsieur Le Vanquim, vous avez un contrat pour produire le festival de Cannes à quelques millions d'euros, mais avoir détaillé comme vous l'avez fait, et je le dis aux Français qui nous écoutent, quand le festival de Cannes, le contrat coûtera deux fois plus cher à France Télévisions pour pouvoir continuer de produire le festival de Cannes, parce que vous venez de révéler aux acteurs privés, aux chaînes privées, le coût du compte. Vous venez de faire quelque chose de grave.
Et la présidente de France TV a d'ailleurs alerté dès hier soir la présidente de l'Assemblée nationale par courrier sur le risque de divulguer de telles informations. Conséquence, l'ambiance continue de se tendre. Mardi, donc, une nouvelle réunion de bureau est programmée. Objectif pour Jérémy Patrier-Lettus, taper du poing sur la table, répéter les règles éthiques, le respect de la vie privée et les accords de confidentialité qui ont été signés pour accéder aux millions de pages versées à la commission par les différentes rédactions. Commission dont les membres ne peuvent être sanctionnés car protégés par l'immunité parlementaire. Mais un levier reste possible afin de ramener un peu de sérénité au débat, le huis clos, une option peu souhaitée par beaucoup pour ne pas alimenter les reproches et le manque de transparence.
Marion Ferrer, merci. C'est une filiale d'EDF qui va passer sous la bannière étoilée. Exaion se prononcera bientôt Exaion. Le gouvernement vient de donner son feu vert à l'acquisition par le groupe américain Mara de cette filiale spécialisée dans le calcul de haute performance. Valentin Gris, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Du service économique de France Culture, l'État actionnaire à 100% d'EDF a subordonné cette cession au respect par Mara de conditions juridiquement contraignantes.
Oui, car derrière la bannière du calcul de haute performance, Exaion produit en réalité des services de cybersécurité, d'hébergement des données pour des industriels, ainsi que des capacités de calcul pour développer l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou les cryptos. Autant de secteurs très énergivores, ce qui explique son incubation par EDF, mais aussi très sensible. Le rachat a d'ailleurs longtemps crispé les autorités, car il signifiait vendre à un groupe américain, mais aussi à une entreprise spéculative, spécialiste du minage de Bitcoin, une opération informatique complexe qui permet de produire de nouvelles unités de crypto. Bercy a finalement eu recours à la procédure IEF pour investissement étranger en France, qui permet de réguler ce type d'opération. Et le nouvel accord impose le maintien des activités d'Exaion en France, ainsi que la protection absolue des données d'EDF et un mécanisme de suivi pour contrôler la bonne conduite de Mara. Surtout, deux points diffèrent de l'offre de rachat reçue au départ par EDF. Une clause de non-concurrence disparaît. Elle aurait empêché EDF et donc la France de développer du calcul à haute performance de son côté dans le futur. Et l'entrée au capital de Xavier Niel, qui prend 10% de la filiale française de Mara créée pour l'occasion. Au conseil d'administration, la France conserve donc 3 sièges pour EDF, 1 pour le milliardaire et 1 en plus du fondateur. Cela fait donc 5 sièges français sur 8, le signe d'un contrôle maintenu sur les activités du groupe.
Valentin Gris, la météo pour terminer avec un retour progressif à un temps plus calme, ce qui n'empêche pas l'Ouest de rester en vigilance crue, rouge ou orange selon les départements. Sur les sommets, la vigilance orange avalanche a été levée dans tous les départements. Demain, ce sera du gris avec de faibles pluies au nord, plus ensoleillé et sec au sud. C'est la fin de ce journal. Alix Forgeot était à la réalisation. Ludovic Auger à la technique.